Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, l'émission qui compte double comme au Scrabble, puisque vous nous écoutez dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis vous nous retrouvez à l'antenne, comme tout le monde, 22h, minuit. Ce soir, une série et des meurtres en série avec nos deux invités. Sylvie Testu, en femme d'affaires, mais qui a des convictions politiques. Elle est directrice d'un camp de réfugiés en Grèce. Et au centre d'Éden, c'est la nouvelle série d'Arte, signée Dominique Moll. Une femme qui va faire bouger les lignes, on peut lui faire confiance. Sylvie Testu est dans l'ascenseur, elle va nous rejoindre dans quelques instants. Tout de suite, il y a aussi avec nous Madame la commissaire divisionnaire, ex-commissaire divisionnaire, Daniel Thierry est passé du côté de la fiction et signe une nouvelle enquête d'Edwige Marion, sa commissaire. Au programme de ce nouveau roman Sex Doll, un hôtel de passe pour poupées en silicone, des ponettes, une vengeance impitoyable et un grand psychopathe, le Dr X. Vous me faites peur, Daniel Thierry, bonsoir.
J'espère bien.
Bonsoir. Algorithme ce soir dans l'air pour Marion Guilbeault.
Et c'est un algo Saul, un jour Saul, toujours, c'est celui de Sylvie Testu.
Dans le Énervé la suite, on partira à Lourdes. Sylvie Testu connaît bien puisqu'elle a été miraculée dans le film Lourdes en 2011. Ce soir, direction Lourdes qui fait l'objet d'un film superbe, un documentaire, Benoît Lagan.
Oui, un documentaire étonnant sur le parcours de plusieurs pèlerins donc à Lourdes. Ça sort demain au cinéma. On en parle en deuxième heure avec nos invités. Les deux co-réalisateurs du film, Thierry Demézière et Alban Turley, le frère dominicain Franck Dubois et un journaliste, Samuel Provost, rédacteur en chef de Famille Chrétienne.
Et Sylvie Testu vient d'arriver. Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, c'est une bénédiction.
Ah bah voilà.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Donc ce soir au programme, une vague migratoire de la géopolitique, un parcours humain pour vous, Sylvie Testu, dans Eden, c'est la nouvelle série sur Arte, on va en parler. Meurtre en série et déviance sexuelle pour vous, Daniel Thierry, dans ce nouveau polar Sex Doll. Vous êtes ex-première femme commissaire divisionnaire en France, on va y revenir. Vous avez déjà joué une flic, hein, Sylvie Testu, plusieurs fois ?
Plusieurs fois, oui, ça m'est arrivé.
Avant l'aube ?
Avant l'aube, ensuite...
Deux gouttes d'eau,
la série des Vergas.
Exactement. Et je lisais dans un entretien que vous disiez que c'était pas si facile que ça d'incarner un flic.
Non, c'est pas si facile parce qu'on a une tendance à penser qu'il faut être rigide pour faire respecter la loi. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est assez faux finalement. Que ce sont plutôt des gens, enfin vous me contredirez certainement, plutôt des gens qui...
Elle a pas l'air rigide.
Voilà, qui sont... plus en fait, qui ont plus à voir avec la sociologie, en fait quelque part, il y a un côté, ils écoutent beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Et c'est vrai que quand on démarre un film avec un tel personnage, l'uniforme peut-être aussi doit impressionner. On a une tendance à se tenir un peu plus droit, un peu plus froid, quoi. Et c'est une erreur.
Vous confirmez, Daniel Thierry ?
Oui, je confirme. Bon, j'ai fait ça pendant 38 ans. Alors bon, l'uniforme, je connais. Voilà. Je sais ce que ça représente aussi, parce que c'est chargé de symboles. Hein. C'est comme l'arme, c'est pas un outil neutre. On dit que c'est un outil de travail comme un autre. Non.
Non.
Parce que quand on
nous, on a un micro, c'est pas la même chose.
Voilà, absolument. Vous avez un stylo aussi à la main. Et le stéthoscope ou des choses comme ça. Alors, on a tendance un peu à les comparer. Sauf que c'est pas vrai du tout, parce que quand on nous donne cette arme, c'est quand même très chargé de symboles. C'est très important. Et puis l'uniforme, c'est la même chose. On n'est plus la même personne. Et on voit pas les gens de la même façon non plus, quand ils ont un uniforme ou quand ils n'en ont pas. Alors, peut-être que les flics dont vous parlez, Sylvie, ce sont des policiers qui sont plus dans l'investigation et qui ont plus des rapports, des contacts avec des plaignants, des victimes, et qui sont donc moins chargés de symboles, moins chargés, je veux dire, de choses négatives que ceux auxquels on peut...
Vous étiez coaché, d'ailleurs, pour jouer une flic, comme vous l'avez joué ? Vous aviez rencontré, je ne sais pas, des flics pour pouvoir...
Oui, il y a souvent une personne qui est là en référence ouais. Oui, voilà, pour expliquer un petit peu comment se passent les arrestations,
ouais,
comment
les maniements d'armes.
Les maniements d'armes, voilà. Ouais. D'ailleurs, je n'étais pas antidouée.
Ah bon ?
Oui, à ma grande surprise, on m'avait fait faire une séance de tir avec, vous savez, des papiers, là,
oui,
et
des silhouettes. Cibles.
Voilà. Et finalement, j'arrivais à... Bon, pas toutes dedans non plus. Hein. Mais à y arriver une fois de temps en temps. Alors, je pensais que j'étais...
Vous innocents, les mains pleines.
Exactement.
Mes premiers instructeurs.
Et c'est vrai que, par exemple, une fois, c'était une dame qui était là et qui était très sympathique et qui nous a raconté plein de d'histoires, plein de petites anecdotes et les contacts qu'elle avait parfois avec des personnes qu'elle devait arrêter, mais pour lesquelles elle avait de la sympathie, qui était hors la loi, mais pourtant.
Bah oui, oui.
Voilà. Daniel Thierry, oui, bien sûr. Vous êtes fait des amis dans le milieu?
Des amis, je n'irai pas jusque-là, mais nous sommes tous pareils, vous savez, les humains. C'est juste qu'à un moment donné, on tombe d'un côté de la barrière ou de l'autre, je crois, puis que la vie se charge de nous donner. Des chances ou pas, enfin bon, c'est très compliqué tout ça. Mais non, il n'y a aucune raison pour stigmatiser les uns ou les autres en fonction justement de ce qu'ils représentent ou de ce qu'ils incarnent.
Alors peut-être une précision pour Daniel Thierry, elle est aussi présidente du Festival du film policier de Beaune. Donc
du jury
bien,
police.
Du jury police,
pas du
ouais.
festival.
Non, du jury
bien,
police, ça viendra, attendez, il faut prendre le pouvoir jusque-là. On ne vous a jamais demandé de tourner un rôle ou un caméo dans un film?
Non, jamais, j'ai coaché des comédiennes,
ouais, qui
comme Sylvie, ouais, j'ai coaché Sophie Duez dans la série qui est numéro 1, puisque c'était quand même la série inspirée de mon histoire, de ma vie de l'époque, dans les trains et les gares. J'ai coaché Valeria Bruni Tedeschi dans un film de Chabrol.
Et jouer une femme d'affaires qui gère un camp de réfugiés quand la société est privée dans Eden, c'est facile à intégrer?
Non, c'est pas facile à intégrer, d'autant plus que je ne savais pas qu'il y avait des camps qui étaient gérés de façon privée.
Mais moi non plus, je l'ai appris en regardant la série, ouais.
Et alors on se pose d'abord la première question en se disant qui a eu cette idée. Et en fait, donc évidemment ça marche aussi avec les subventions, donc ce sont des personnes qui vont demander des subventions à Bruxelles, qui ensuite font appel à des fonds privés. Et donc quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est fou, c'est presque inhumain. Et en fait, il faut entrer dans une sorte de logique qui est celle des financiers, celle de tous ces gens qui font des études entièrement tournées vers l'argent, le profit, enfin bon. Ils parlent de volume de tout. Et donc mon personnage parle de volume de personnes qui sont des migrants, de volume d'argent qui va en face. En fait, et comment mettre de l'équilibre dans tout ça. Il y a absolument... Tout est un peu flou quelque part. C'est-à-dire, il y a absolument aucune notion de l'histoire personnelle, du destin, du parcours de chacun. Pour elle, en tout cas, au départ. Donc, on a tout axé là-dessus. C'est-à-dire que moi, je me suis renseignée, donc, à savoir, est-ce que ça tient debout? Est-ce qu'il y a vraiment des camps de réfugiés qui sont gérés de façon privée? Est-ce que des gens essayent de tirer des bénéfices de ça? Comment ça se passe? Donc, on m'explique que oui. J'en visite un, donc, celui dans lequel on tourne. Ouais. Qui fonctionne a priori, qui a l'air plutôt assez propre, assez. Alors je dis pas que c'est l'endroit où on a envie d'aller. Hein.
Non, mais ça n'a rien à voir avec.
Mais ça n'a rien.
Parce que nous, on pense toujours à la jungle de Calais. Ça n'a absolument
rien
à voir.
Rien à voir. Ah non, rien à voir. C'est-à-dire que ce sont donc des conteneurs comme ce qu'avaient fait les Anglais à un moment, qui sont aménagés. Donc il y a l'eau chaude, enfin tout ça. Et il est possible d'y vivre. Voilà. La chose qui est toujours très surprenante, c'est d'aller voir des gens qui, a priori, ne sont pas emprisonnés, mais qui sont quand même derrière des grilles.
Bien entendu, puisqu'ils ne peuvent pas entrer et sortir du camp, c'est ça?
Ils peuvent entrer et sortir.
Oui, mais avec un badge.
Mais voilà. Pas les mineurs.
Pas les mineurs. Pas les mineurs. Ah ouais, vous êtes bien au courant. Ouais.
Exactement.
J'ai regardé.
Vous avez vu la série? Bah oui, les trois premiers épisodes.
Voilà. Oui, je regarde.
Avec certaines, avec des horaires d'entrée, de sortie, enfin bref. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est surprenant, parce que vous allez voir des gens, donc, qui ne sont a priori pas accusés, mais qui sont quand même enfermés. Vous-même, vous devez vous soumettre en fait à un contrôle, donc vous passez cette grille. Bon, une fois qu'on est arrivé là, donc tout ça a été plutôt, à ma grande surprise, assez positif, c'est-à-dire que je voyais des gens qui quand même avaient la possibilité de vivre, en tout cas, en paix. Et ce personnage que moi j'interprète, je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'il fonctionne un peu comme tous les gens ont tendance à fonctionner dès que la peur intervient. C'est-à-dire qu'on se cache quelque part inconsciemment derrière des statistiques, derrière des chiffres, derrière des choses qui amoindrissent un peu la douleur qu'on pourrait avoir si réellement on se penchait sur le problème. C'est-à-dire que ce sont des gens qui quand même quittent leur pays, ce qui n'est jamais très évident, qui avaient des vies qui sont démolies et donc qui arrivent à un endroit...
Pour se reconstruire.
Voilà, dans des pays qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs, on peut le savoir, nous, quand on a un peu voyagé, il nous arrive d'être perdus simplement en voyage. Alors quand c'est pour essayer d'y vivre,
on voit bien
et qu'on n'a pas les codes, c'est compliqué.
Tout à fait.
Et donc mon personnage va se rendre compte, va être forcé en fait de se rendre compte qu'elle ne gère pas un volume de personnes, mais elle est responsable de gens avec des histoires et des problèmes personnels.
On le voit déjà. Voilà.
Daniel Thierry, oui.
Vous avez premiers épisodes.
Dans les trois premiers épisodes, oui.
On voit déjà ça très bien. Mais oui, c'est justement le.
Vous avez appris quelque chose? Qu'est-ce qui vous a...
Non, pas grand-chose.
Vous saviez...
À vrai dire, oui, quand même. Parce que bon, j'ai passé pas mal d'années à la police aux frontières.
Ouais.
Donc c'est un sujet que je connais quand même très très bien. Mais je vois très bien les ficelles de la narrative de cette série. Et puis là où vous allez, vous surtout, en tant que directrice.
Non, attendez, les trois prochains épisodes,
Non, on va pas spoiler. Mais en revanche, moi je trouve que ce qu'a fait Dominique Mollet, c'est là où c'est
le réalisateur.
Le réalisateur, c'est très important. C'est qu'en fait, il met plusieurs histoires en parallèle qui n'ont a priori rien à voir les unes
dans
avec les autres.
Dans plusieurs pays, en Allemagne, on y reviendra tout à l'heure, dans le cœur même de la série, mais ça se passe en Allemagne, en France, en Grèce,
voilà.
Bien sûr, de côté de la Syrie et du Nigeria. Ouais.
Et qui sont toutes, en fait, empreintes du même problème, en fait, qui sont toutes tracassées par les mêmes soucis. Et en revanche, on voit que tous ces gens vivent les uns côté des autres, sans avoir conscience chacun des autres, quelle que soit la position de chacun. Et ça, c'est terrible.
Alors, cette façon de construire un récit, c'est un petit peu la même façon que vous avez eu Daniel Thierry dans ce nouveau roman Sex Doll. On va y revenir plus entièrement tout à l'heure.
Oui.
C'est une nouvelle enquête d'Edwige Marion. Mm-hmm. On regarde que c'est de Marion Guilbault. D'ailleurs, je travaille qu'avec des Marion. Marion Guilbault, Marion Lelay, qui est à la technique.
D'ailleurs, elle n'aime pas ce prénom, donc elle veut qu'on l'appelle Marion tout court.
Exactement.
Elle a bien raison.
Comment vous l'avez pensé au départ? On rentrera dans l'enquête tout à l'heure. Comment vous avez pensé cette commissaire?
C'est vieux, hein. C'est vieux parce que c'est le 14e avec elle. J'ai essayé de la tuer d'ailleurs au milieu parce que c'est un peu lourd, un personnage récurrent.
Pourquoi ça n'a pas marché?
Eh ben
pourquoi
parce
vous
que,
n'avez pas réussi la faire
Parce que j'ai pensé à Misery, parce que j'ai pensé à Conan Doyle qui avait tué Sherlock Holmes et qui a dû le ressusciter.
Ouais, donc vous êtes
et qu'en cours de route, en cours d'écriture de ce livre qui s'appelle Crime de scène, qui vient d'être d'ailleurs de ressortir en poche, j'ai lu. Je me suis dit, c'est peut-être un peu bête, quoi. Au moins, je vais la garder en vie. On verra bien si elle m'embête.
Je ferai ce que je veux ou pas.
Je peux en faire un légume, je peux en faire une patate. Enfin, n'importe quoi. Mais ne pas la tuer, c'est trop radical. Et donc, le tout premier avec elle, c'est Le sang du bourreau. Ouais. Et ça fait partie de mon expérience lyonnaise. J'ai commencé à Lyon. J'ai travaillé 15 ans dans la police lyonnaise, j'ai commencé aux mineurs, les stupes, les proxénètes, tout ça. Enfin bon, j'ai une expérience assez diversifiée. Et je voulais raconter l'histoire d'une femme qui dirige un groupe de police criminelle.
Comme vous?
Comme moi, je le faisais à cette époque-là. Mais je voulais surtout me concentrer là-dessus, c'est-à-dire sur ses relations avec son équipe, avec ses mecs, sur les affaires, sur comment elle était perçue par la hiérarchie à l'extérieur, etc. Et donc, je lui avais fait une... Je l'avais complètement dépouillée, c'est-à-dire pas de mari, pas de parents, les parents étaient morts, pas de frère, pas de sœur, absolument personne autour d'elle.
Une page blanche.
Que cette famille de substitution. Oui, mais ce qui fait qu'après, comme on m'a dit, bah, ça marche bien, il faut la garder, elle est trop bien cette femme. Il faut la remettre dans le roman précédent, que j'avais déjà à moitié écrit d'ailleurs, où elle n'était pas. Donc je l'ai introduite un peu artificiellement, mais ça a marché quand même. Et après, le plus dur, c'est de lui faire justement cette vie, alors qu'elle a plus personne.
Ah bah, donc personne. Une fille peut-être arriver à un moment donné.
Alors oui, ouais. Une fille est arrivée. Et puis,
Mina.
Et puis bah, les mecs, quoi, parce qu'elle change à chaque livre. Elle a une vie très très agitée, une vie privée.
Très agitée. On va revenir sur cette histoire.
Elle ne se marie pas. Elle
non,
ne peut pas
toujours
faire
pas.
Sa vie comme ça.
Non, toujours pas.
Non, il y a rien à faire.
Et puis elle a une fille qui est devenue une ponette. On expliquera. Explique ce que c'est qu'une ponette. Vous savez ce que c'est qu'une ponette?
Et non.
Alors, ça peut être une femelle poney, mais dans le langage imagé des policiers aujourd'hui, c'est ces jeunes filles qui se prostituent pour
des fringues de luxe,
vie, pour des fringues de luxe, pour une vie un peu, certes un peu éphémère, parce qu'elles vont pas rester ponettes longtemps, donc elles en profitent au maximum pendant qu'elles le sont. Donc, mes collègues les appellent des ponettes ou les vieilles mineures.
Toujours fraîches.
Toujours fraîches. Alors, vieilles mineures, ça veut dire qu'elles sont presque majeures. Mmh. Et que c'est une catégorie qui est très difficile, justement, à maîtriser parce que des mineures, bon, on sait comment les protéger par les textes. Les majeures, elles sont à peu près disponibles et libres de faire ce qu'elles veulent. les mineurs qui sont quasiment majeurs, ça devient plus compliqué. Et ces ponettes, elles sont drivées, c'est pour ça qu'ils les appellent comme ça, par des jeunes comme elles, qui sont des copains, des petits amis, ou des gens moins bien intentionnés, qui les amènent à
des clients, comme
des
ça.
Clients qui les coachent, qui les protègent, entre guillemets, bien sûr, parce que forcément,
ouais, c'est toujours, le nouveau proxénétisme à la portée de tous. Quoi, c'est
alors, ça se passe dans les chambres d'hôtel bon marché. En général, il n'y a pas d'accueil, comme ça c'est plus simple, personne ne les voit. Donc, et puis, ils sont souvent très près, parfois dans la salle de bain, pendant que la fille travaille. Bon, il y a un autre enjeu aussi, c'est qu'il faut récupérer l'argent tout de suite, le paiement, parce que ce n'est évidemment pas à elles que ça profite
bien
au
entendu.
Maximum. Quand elles sont assez débrouillardes, elles arrivent à se faire un petit peu, à le faire toutes seules, mais ça ne dure pas très longtemps non plus. Parce qu'évidemment, c'est un commerce comme un autre, c'est un marché. Vous avez parlé tout à l'heure de celui des migrants et du business qui tourne autour de ça. Et là, il y a aussi quand même quelque chose d'énorme, parce que ce sont des milliers de jeunes filles qui sont sur le marché, dans ces annonces sur les sites que j'ai cités, qui sont imaginaires dans
mon
livre.
Oui, mais qui doivent bien ressembler aux sites que l'on peut retrouver sur le net.
Exactement.
Ben oui, vous savez tout sur les ponettes. On va rentrer dans le livre dans quelques instants. Sylvie Testu, tout de suite, je vous propose de mettre le feu au NRV. Et c'est Dao qui allume l'étincelle.
Le soir, déplie ses voiles sombres, enveloppe l'étoile. Les trottoirs et les bois. Et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés. Au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux, des perdants silencieux. Au fond de nous, l'étincelle. Dans le cas orageux, cet éclair dangereux, des héros silencieux. Dangereux, des
L'étincelle d'Étienne Dao, il sera en concert à la rentrée pour la réédition de son album Eden. Et oui, comme la série sur Arte, la programmation est trop bien pensée par Jean-Baptiste Audibert.
Prêt ? Le nouveau rendez-vous ?
De mon point de vue, la gestion d'un camp de réfugiés en tant qu'entreprise privée ne se résume pas à aider ces femmes, ces hommes et ces enfants à court terme. Adoptons une perspective plus grande.
Bon, on peut refaire que mes cheveux sont mis dans la figure.
Oui, bien sûr, sans problème. Quand vous voulez, on reprend depuis le début.
Laurent Goumard.
Ce n'est qu'en contribuant à façonner leur avenir et en leur donnant les moyens de s'intégrer que nous investirons dans notre propre avenir. Celui aussi de l'Union européenne.
Sur France Inter.
Mais vous êtes très convaincante, Sylvie Testu. On dirait une politicienne dans cet extrait.
Vous présentez aux élections.
Exactement. C'est au début du premier épisode d'Eden, la nouvelle série d'Arte signée Dominique Moll. On a pu voir déjà les trois premiers épisodes. Les prochains seront diffusés jeudi prochain.
Ouais. Oui.
Ça a bien commencé, non?
Je crois, oui, je crois qu'ils sont très contents. Les retours sont très bons. Et surtout, ce qu'il y a au-delà du message, donc, qui est transmis par Dominique Moll, c'est qu'il y a aussi une fiction là-dedans. C'est aussi un thriller, quelque part.
Oui.
Que la vie de chacun, et notamment des deux personnages principaux, on la suit. On veut savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on s'y accroche? Voilà. Même si on peut voir aussi quand même une critique de l'accueillant et de celui qui est du réfugié.
Dans tous les domaines, ouais.
Dans des deux côtés.
Et les torts sont parfois partagés. Alors ça y est, c'est une nouvelle série. Il y avait eu Deutschland sur Netflix.
Ouais.
C'était une comédie, vous parliez allemand.
Amazon.
Cette fois-ci. Ah, c'était sur Amazon.
Amazon,
ah oui, c'est
ouais.
Ça. Cette fois-ci, vous parlez anglais. Là, c'est une série beaucoup plus ambitieuse avec 5 histoires qui se croisent. Celle d'Hélène, c'est vous qui gère un camp de réfugiés en Grèce et qui cherche à exporter ce modèle dans d'autres pays. Pas facile au vu de ce qui se passe. Celle d'Amaré, 16 ans, et de son frère Daniel, deux réfugiés qui ne vont pas trouver en Europe le salut qu'ils y cherchaient. Il y a Bassam, un jeune réfugié syrien qui est accueilli en Allemagne dans une famille dont le fils va péter les plombs. Il y a aussi Hamid et Mariam, là encore deux réfugiés à Paris, cette fois-ci, qui ont demandé l'asile politique parce que lui, qui était médecin, a révélé des crimes du régime de Bachar el-Assad. Vous, Hélène, comment on vous a présenté ce personnage ? Sylvie Testu.
Alors moi, on me l'a présenté en me disant, voilà, c'est un personnage qui va... faire preuve d'humanité au fur et à mesure, en fait.
Qui va se révéler humaine.
Voilà. C'est-à-dire, elle
est. À partir de la machine économique, elle est au départ.
Elle est. Tout le monde, les personnes naissent avec une culture, économique, avec une culture financière. Tous les enfants rêvent de poésie, finalement, d'amour et de choses là. Et petit à petit, on se fait formater, c'est son cas. Et là, c'est très rigide au départ pour elle. Elle est très ancrée dans justement les stats. L'argent, les profits, les dépenses. Et petit à petit, la femme qu'elle est, se remet à respirer quelque part et à voir un peu les gens.
Mais ça veut dire qu'elle va quitter le tailleur pantalon que l'on voit dans les trois premiers épisodes.
Alors, je sais pas si c'est,
est-ce que ça passe aussi
vraiment...
par le vêtement, cette humanisation
ou la coiffure.
Ou la coiffure. Mais... Oh non, la coiffure, ça va. Au départ, la coiffure est quand même assez lâchée.
Ça
je me suis
va,
dit, pour une
va.
Femme d'affaires, ça va. Il y a un potentiel
non,
de libération.
Parce que c'est aussi très moderne. C'est-à-dire que les femmes ont appris à évoluer dans les mondes d'hommes, c'est-à-dire à avoir une sorte d'autorité sans quitter la féminité. Parce qu'une femme qui deviendrait trop masculine perdrait aussi un peu d'autorité, parce qu'on voit son manège. Alors il faut, c'est un savant dosage, hein, on n'a jamais fini de bosser. Donc, non. Finalement, elle est quand même assez féminine, malgré ses costards et tout ça, mais petit à petit, en fait, c'est, oui, c'est-à-dire se laisser traverser par l'autre. Il y a un peu de ça. Mais comme les autres personnages, moi il y a une des histoires qui me touche beaucoup et ce qui m'a le plus effrayée, c'est ces Allemands qui accueillent ce jeune garçon. C'est-à-dire qu'ils l'accueillent, ils sont très affables. Ils sont
très accueillants.
Très accueillants, mais il y a quand même... Et il faudrait quand même bien faire comme on a dit à la maison, hein. Il y a des règles et tu vas les respecter, puis il faudrait quand même pas en sortir.
Mais c'est bien aussi d'avoir un cadre.
Oui, mais cette froideur et cette envie d'être remercié et cette envie, ce besoin d'être reconnu à la hauteur de ce qu'on a donné, je crois que c'est ce qu'il y a de pire pour moi, en fait.
Ah oui, dans les histoires.
Je crois qu'il y a de ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose qui m'a mais vraiment fait halluciner. Donc je suis en Allemagne et puis on me pose des questions.
Ouais.
Et à un moment, un des journalistes me pose la question, me dit, que pensez-vous donc de la France qui n'a accueilli que 37 000 réfugiés quand l'Allemagne en a accueilli 1 million?
Bon, alors, réponse de Sylvie Testu.
Réponse, je ne peux pas dire que bravo pour nous, hein. Mais en revanche, est-ce qu'il faut clamer bravo à vous? En fait, est-ce que c'est, il y a un besoin
de vous remercier,
de faire reconnaître? Ça, c'est dur. Et en fait,
c'est-à-dire que vous avez vérifié pendant la promo ce qui se passe dans le film.
Voilà, mais on est arrivé à une situation comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que celui qui donne, donne pour avoir beaucoup de merci. Et c'est compliqué. C'est-à-dire que si on se réfère en fait au juste, par exemple, je ne crois pas qu'il y ait un juste qui soit dit « Tiens, je vais les sauver pour qu'on me dise bien merci. Je vais cacher des enfants sous mon plancher pour que quand j'ouvre la trappe et qu'ils soient toujours en vie alors que les parents ont été déportés, qu'on me donne une médaille. » Je ne crois pas. Je crois qu'ils l'ont fait parce que humainement, ils trouvaient que c'était juste.
Daniel Thierry, vous, à quel moment vous travaillez au niveau des frontières?
Alors, j'ai travaillé à la police aux frontières pendant une bonne douzaine d'années. J'ai travaillé dans l'aérien, les aéroports, enfin Lyon en principe, en premier. Et puis les trains aussi, j'ai fait beaucoup. Ah. J'ai une très longue période ferroviaire, une très longue histoire avec le train.
Mais on n'était pas encore dans ces histoires.
Mais
de...
si, ah, si, si, on déjà. Était, bah, bien sûr que si. L'immigration, c'est quand même.
Oui,
non,
mais l'immigration, oui. Mais...
Oui, mais c'est un peu pareil. Vous savez, l'exploitation, elle était déjà là. On avait des gros bataillons de gens qui passaient, des Philippins avec des passeports japonais, faux passeports. Il fallait régler tout ça. Puis c'est... Alors évidemment, pour ces pauvres gens, c'est pas simple, mais c'est les exploiteurs surtout auxquels on s'intéressait. Et bon, dans les trains, moi j'ai vu passer des quantités incroyables de gens qu'on cachait, certes, une fois une jeune femme chinoise, dans une valise quand même. Ils l'ont fait passer dans une valise, une grosse valise, hein, d'accord, mais quand même, voilà. Donc, ou dans les doubles plafonds, des voitures, enfin... C'est un problème qui est quand même très très ancien.
Sylvie Testu.
Oui, ce sont des gens qui sont prêts carrément à y laisser la vie pour fuir ce qu'ils sont en train de fuir. Mais tout à l'heure, vous faisiez référence aussi à ces personnes qui demandent l'asile politique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, je le savais, mais on ne s'en rend pas compte de la même façon quand on y est vraiment confronté. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie aussi du migrant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont l'asile politique, qui demandent l'asile politique, qui vont l'obtenir. Ceux qui ne sont que des migrants économiques, qui sont encore différents de ceux qui sont des migrants réfugiés climatiques.
C'est comme s'il y avait même plusieurs classes sociales.
Exactement,
à l'intérieur.
Exactement, ça ne s'arrête jamais.
Parce que celui qui demande l'asile politique, il était médecin dans son pays, il appartenait à la bourgeoisie, alors que, par exemple, les deux réfugiés nigériens, on voit bien qu'ils doivent travailler pour donner de l'argent à leur mère qui est restée au pays.
En sachant qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas pu encore arriver.
C'est un très vieux débat, vous savez.
Daniel Thierry.
Les premières grandes migrations se sont faites par les trains. À partir du moment où les chemins de fer ont existé en Europe, les grandes migrations se sont faites par là. Et ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que les gares de Paris étaient structurées pour, justement, accueillir non pas les migrants, mais pour effectuer les contrôles. Et que la police la plus importante dans la deuxième moitié du 19e siècle en France, c'était la police des trains. C'était les ancêtres de la police aux frontières, c'était les ancêtres également des renseignements généraux, parce qu'on faisait énormément de renseignements à partir de ces migrations qui étaient liées à la situation politique, aux périodes de conflit, parce qu'on a
chose
tout
que l'on
temps,
revit aujourd'hui temps, avec, temps, avec les histoires. Ouais.
Oui, mais en période de conflit, quelque part. Les Espagnols qui sont arrivés...
Vous, votre propre famille, dans votre
mienne,
propre famille.
Moi, je pense que la France...
Italien, chez vous, c'est ça
oui,
ils vous
oui.
ont raconté comment ils sont arrivés en France
Oui, à vélo. C'est fou quand même, arriver de Naples à vélo. Donc mon grand-père est arrivé le premier. Il a essayé de trouver donc un travail, c'est ce qu'il a trouvé. Et ensuite il a fait venir sa femme et ses enfants. Et d'ailleurs à l'époque c'était moins un problème de ne pas parler, de pas maîtriser la langue. Moi ma grand-mère qui est morte donc l'an dernier, assez âgée, maîtrisait très mal le français. Très très mal. Et ça ne l'a pas empêché donc, de travailler, d'éduquer ses quatre enfants qui vont très bien. Enfin, en tout cas, j'espère. mais
enfin,
en tout cas,
nouvelles.
Oui, voilà, je vais leur téléphoner tout à l'heure.
Ah bah oui.
Mais en revanche, je veux dire, la France, qu'on appelait quand même la mère de l'Europe, a toujours été comme ça traversée par des migrants.
Tout ce courant,
les Espagnols, je ne sais plus, en l'espace d'une semaine, je crois que 300 000 personnes avaient traversé la frontière. On les avait mis dans des camps, c'était épouvantable. Et puis finalement, aujourd'hui, qui se souvient voilà, que finalement, ils étaient dans un état pitoyable. Non, ils sont devenus français. Voilà, ils s'appellent Lopez. Moi, ma famille, c'était Di Folco. Enfin, et ça gêne plus personne.
Une question sur le réalisateur Dominique Moll, qui vient du cinéma. Hein, c'est lui qui avait réalisé notamment Harry, un ami qui vous fait du bien. Oui. Il avait une culture de série télé avant de commencer?
Alors oui, il avait fait une série.
Parce que vous avez une grosse culture de série, hein.
De ce que je regarde
ouais.
Oui. Ouais, enfin, je choisis. Hein.
Oui, mais quand même,
voilà,
c'est pas mal. Hein.
J'en connais pas mal, ouais.
Et pas qu'en France, hein.
Non, exactement. Oui, j'aime beaucoup. Et
lui
Et oui, bah lui, il avait adapté The Tunnel.
Ah, d'accord.
Et donc, c'est lui qui a réalisé la version française de cette série, avec Clémence Poésie, d'ailleurs. Et c'est plutôt pas mal, ce qu'il avait fait. Et je crois que ça lui plaît. Puis c'est vrai que c'est un support particulier, parce que les personnages peuvent se développer, on s'y attache. Et c'est vrai que moi, je m'y suis mis de façon tardive à regarder les séries. Et alors, quand elles sont bien faites, c'est vrai qu'en une heure et demie au cinéma, on ne peut pas développer tous les aspects, tous les paradoxes des personnages, comme on peut sur une série. Quoi. On a le temps d'être avec le personnage et on a le temps de fuir l'efficacité quand même dans les séries.
Daniel Thierry, vous regardez quoi, vous? Parce que vous êtes aussi adepte.
Oh, je regarde beaucoup de séries policières.
Ah, bah, j'en étais sûre.
On voit son œil qui brille, hein, quand même.
Oui, mais pas que. Mais bon.
Et la meilleure série policière, ça serait quoi, alors, pour vous, en ce moment?
Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Bah, toujours Engrenage, qui est toujours une bonne série, quand même.
Mais dans les américaines et anglaises, vous voyez des choses aussi au niveau policier?
Oui, mais
policier.
Alors, ne me demandez pas les titres, parce que je n'ai aucune mémoire de ça. Donc, j'en regarde beaucoup, mais je ne suis pas... je suis incapable de vous dire... Comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle?
On va parler roman tout à l'heure avec vous, Daniel Thierry. Vous en êtes où du côté du roman?
Oh, je suis très en retard.
Il y en a un qui arrive bientôt?
Oui, voilà, j'y travaille. J'ai un an de retard, voilà, glorieusement, je le dis.
Et cinéma?
Et
la réalisation?
La réalisation, bah non, là pour l'instant, je sais pas où du jour, mais ça va venir. Là, j'ai beaucoup tourné, c'est vrai qu'il faut.
Ah ouais.
Il y a un moment, faut
rester. Il y a plein de choses qui vont sortir en 2019. J'ai vu ça pour la suite.
Faut rester assise. Et non, le bouquin est quasiment fait, mais comme moi, j'écris beaucoup pour réduire. En fait, je veux toujours faire des livres qui n'excèdent pas 200 pages. Et c'est le plus
difficile de dégraisser.
D'enlever jusqu'à la limite de la compréhension. Parce que j'aime. Moi, je veux toujours enlever la littérature. Je veux qu'on m'entende. Plutôt, j'ai pas envie qu'on me lise. Je ne m'inscris pas en tant que réel auteur littéraire. Mais j'invite les gens à passer un moment avec moi et je leur dis, tiens, moi, je vois ça comme ça. Et il faut qu'on m'entende plus qu'autre chose. Et ça, c'est pas facile, en fait, d'enlever complètement un style que j'aurais mis un peu pour me faire plaisir. C'est pas facile.
Oui, c'est ce qu'a fait Annie Ernaux, en fait, en littérature. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle a dit.
Oh, bah, je vous remercie.
D'enlever la littérature au texte.
C'est ça.
On peut vous voir, à défaut de vous lire, actuellement, donc, ce sera jeudi prochain. Eden, c'est sur Arte. Vous restez avec nous, c'est du Testu, Daniel Thierry, bien entendu. Il va être question d'algorithme et donc de musique, tout de suite.
Bonjour.
Bonjour.
Viens voir Marion.
Vous avez rendez-vous?
Rendez-vous.
On peut avoir de la musique?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits, Phil Collins, Skate Jared.
Le nouveau rendez-vous?
Vous aimez Mozart?
Oui. C'est lequel?
Le dernier.
Sur France Inter.
L'algorithme, ça y est, c'est Sylvie Testu qui est en train de parler boutique.
Dissipé.
Donc ça veut dire cinéma, de flic, de commissaire.
Parce qu'en fait, elle travaillait là où j'ai grandi.
Ah bon?
On parle de Lyon.
Oui, bah oui, vous êtes tous les deux de la région.
Les bandes de la Croix-Rousse, on était en train d'en parler.
Moi, je ne suis pas de là-bas, mais j'ai vécu longtemps. Et puis, je connais bien son quartier, parce que c'était là où on allait tous les jours.
Ah oui, pour faire des descentes.
Bah, beaucoup de prostitution, beaucoup de communautés hippies à l'époque.
Notre jolie petite rue Sainte-Catherine.
Oui, par exemple.
Vous avez changé, quand
même. Capucins aussi. Qui étaient...
Oui,
très chaude.
Oui, oui, les années 80, c'était plus compliqué, mais on s'y est bien amusé.
Oui, ah oui, c'est une belle ville, Lyon. Ouais. C'est une ville super.
Musique, Marion Guilbeault.
Musique, un algorithme musical, c'est le vôtre, Sylvie Testu. C'est un algorithme, c'est-à-dire que je vais plonger dans votre ADN musical, voir qu'est-ce que vous écoutez, et puis vous faire des nouvelles propositions de choses à découvrir. Alors, votre algorithme, il commence en live avec votre premier concert. Enfin, c'était beaucoup plus qu'un concert, hein. C'était un vrai show pyrotechnique.
Ah, oui.
Il y avait des paillettes, il y avait des guitares en pointe, il y avait des cheveux crêpés, des feux d'artifice.
Des panthères.
Et un groupe, vous allez nous le dire ça. Et un groupe dont le look était au moins aussi dingue que sa musique. Il y avait le démon, il y avait l'étoile, il y avait l'homme de l'espace et l'homme chat, il y avait la langue de Jane Simons et il y avait ce son-là.
C'est bizarre, je n'ai aucun mal à vous imaginer danser sur ce tube.
Sur qui?
Surtout à l'âge que j'avais.
Qui ne danserait pas
alors,
sur ce
qu'est-ce
tube.
Que c'est que cette histoire de premier concert avec Kiss?
Eh ben alors, c'était arrivé par hasard, je devais avoir, je pense, 12 ans.
Ouais.
Je me souviens très bien d'être gênée par les basses. Ça résonne dans la cage.
Vous êtes allée le voir où?
À Lyon, c'était à la Halle Toligarnier,
ouais.
Je crois.
Ouais, c'est là où on fait les concerts.
Voilà, et c'était un de mes cousins, en fait, j'étais gardée par une nourrice qui avait des fils. Et je l'ai accompagné. Voilà, il était tout seul. Et donc, on était tous choisis-moi. Et il m'a choisi, moi, pour m'emmener voir Kiss. Et je me souviens très bien d'une panthère noire qui arrive. On était dans la fosse. Alors, c'était pas si serré que ça, hein, mais quand même, il y avait du monde. Quand les basses ont commencé, je me souviens très bien d'être gênée, de me dire « il faut que je sorte ». J'avais très peur, en fait.
Bien sûr,
les premières minutes, j'ai eu peur. Et quand cette chanson est arrivée, qui était la seule que je connaissais de Kiss, parce qu'il la mettait à fond, et là, je me suis dit « j'adore ». C'était un rêve. Oui, il y avait des paillettes, il y avait les cheveux, il y avait ce maquillage en éclair un peu partout, les pantalons.
Hyper serrés.
Ah ouais, c'était fou, c'était fou.
C'est difficile après de faire mieux après un premier concert comme celui-là. Vous avez continué à aller voir des concerts par la suite ?
Non, parce que je ne suis pas très rassurée dans la foule, moi, justement. J'ai un peu de mal, donc j'y vais peu, je vois le lien.
Alors, si je continue à fouiller dans votre ADN musical, ce qui vous fait vibrer, vraiment vibrer, c'est le son du début des années 60, celui qu'on entendait dans les studios de Détroit ou de Memphis, celui des artistes échappés des chœurs de gospel qui donnaient à la nation afro-américaine des armes musicales pour exister et résister dans un monde si désespérément blanc. Et une des voix qui était à la tête de ce mouvement, eh ben, c'était la sienne. Oh, oh, merci, merci. All things ain't what they used to be. Now oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. C'est la voix de qui, Sylvie Testu ?
De Marvin Gaye.
C'était pas très difficile, même moi j'aurais pu le dire.
C'est pas votre algo.
Non, mais c'est vrai que de Betty Lavette, hein, on peut aller encore en amont. À Candice Staton et toutes ces Betty Swan aussi, il y a des femmes que j'aime beaucoup. Je sais pas, il y a une rondeur dans cette musique, dans ces voix qui ne me quitte pas, que j'aime. Al Green après.
Ouais, j'adore.
Ouais, voilà, j'adore. Alors c'est vrai que de temps en temps j'écoute autre chose, mais j'y reviens toujours. Et là je suis ravie parce que en fait ça fonctionne encore. Je mets beaucoup de soul, toute la Motown en fait chez moi et mes enfants adorent. Donc ça passe, le message se transmet encore, quoi.
Vous êtes plutôt playlist ou vous avez racheté une platine vinyle ?
Ah, j'ai les deux. Ah oui, et j'ai en vinyle, hein. J'en ai pas mal en vinyle. Et d'ailleurs, là, il n'y a pas longtemps, j'ai racheté des Al Green en vinyle. Donc, c'est pas le même son, c'est pas du tout la même chose. Ça passe par un ampli à l'ancienne, quoi, que j'aime beaucoup, quoi. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que quand même playlist, quoi.
Alors dans votre ADN musical, vous l'avez dit, on trouve aussi la voix d'Aretha Franklin, celle d'Al Green, celle de la française Jane, mais essentiellement de la soul, parce que vous êtes un petit peu monomaniaque en musique,
peu, hein, ouais.
Visiblement. Alors je pense que vous ne serez pas insensible à la démarche de Bobby Oroza. Alors Bobby Oroza, il porte un nom d'origine bolivienne, mais il vit et il chante depuis la Finlande. Vous imaginez une sorte de crooner du Grand Nord qui a découvert la musique dans les fêtes de famille qu'organisait son grand-père bolivien. Alors il absorbe tout, il absorbe la salsa, la cumbia, la pop, le doo-wop, le jazz, le folklore sud-américain. Mais ce qu'il transporte, Bobby, ben c'est comme vous, Sylvie. C'est la puissance, la sensualité de la soul. C'est mélancolique, c'est groovy, c'est Bobby. If I run into you, I'm gonna turn away. I Il s'appelle Bobby Oroza, le titre c'est This Love, c'est aussi le titre de son premier album qui vient de sortir sur le label Big Crown et il a tout fait à l'ancienne, il a vraiment enregistré à l'analogique, il a sorti 45 tours après 45 tours qui commencent maintenant même à avoir une petite cote chez les collectionneurs de soul et voilà, il fait partie de cette nouvelle génération qui ne veut pas enterrer la soul music.
Oui, mais j'entends un peu de Jack Soul, Jack Johnson et tout ça dans sa voix et tout ça. J'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien cette énergie forte qui sort, justement. Alors, Marvin Gaye est moins représentatif de ça, mais même Al Green, quand il chante, il a une voix douce, mais malgré tout, ou Eddie Floyd. Et ces voix qui sortent, et on sent qu'elles sortent pas de la gorge, mais elles sortent vraiment d'en dessous du plexus, quoi. Il y a un truc que j'aime là-dedans. Et là, c'est tout à fait charmant, hein, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est moins.
Moi, la prochaine fois, je vous trouve quelque chose d'un peu plus âpre.
Beaucoup plus âpre et de puissant.
Voilà.
On vous retrouve tout de suite, Sylvie Testu. Et bien sûr, Daniel Thierry, on va parler Sex Doll dans quelques instants. Thank you.
that bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Control, even if you know that you don't own me, I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Cause I'm wearing your cologne.
Bad Guy, c'est signé Billie Eilish, une des dernières révélations de la pop américaine, signe particulier des cheveux bleus.
Une adresse secrète, un lieu unique en France, sulfureux et qui pourrait faire polémique. C'est le retour des maisons closes à Paris. Enfin, à l'intérieur, des poupées gonflables.
Bienvenue dans la première chambre.
Le nouveau rendez-vous.
Vous avez des miroirs, un écran plat où vous avez une sélection de films pornographiques et vous avez aussi une petite lumière d'ambiance que vous pouvez choisir.
Et une poupée, nue, Kim, Sophia ou Lily.
Donc ce n'est pas du tout des femmes, hein, faut oublier complètement ça, mais des sextoys géants.
Laurent Goumard.
Des cordes de silicone comme moyen de substitution pour une clientèle timide ou complexée.
Apporter un peu de bonheur à ces gens-là, je trouve que c'est une belle activité.
Sur France Inter.
Cette histoire, j'imagine que vous la connaissez, Daniel Thierry, vous qui situez votre nouveau roman dans un hôtel de passe pour poupées en silicone à Paris.
C'est ça. Enfin, c'est le début, hein. Ouais, c'est une partie.
Une partie, oui, parce qu'il y a d'autres lieux quand même. Oui, justement, oui. Tout est très rythmé, hein.
C'est l'idée de la construction d'un polar, ça doit quand même aussi nous amener à changer de pied de temps en temps, changer de personnage, changer de décor, changer de scène, en gardant quand même une ligne directrice.
Vous l'avez visité ce lieu à Paris?
Non, parce que quand j'ai voulu le voir, il a changé d'endroit. Et puis bon, ce n'était pas indispensable, j'imaginais très bien ce que ça pouvait être.
Oui, ça pouvait être, j'imagine. Pas besoin de se renseigner
plus que ça. Il a eu beaucoup de pubs à un moment donné, donc vous pouvez aller chercher des... Il y a des photos qui ont été faites, qui ont été diffusées. Bon, j'ai pas eu l'occasion, voilà.
Vous connaissez cette histoire, vous évitez-tu? Il y avait donc un hôtel de passe, une sorte de bordel avec des poupées de silicone.
Il y en a d'autres, il y en a plein d'ailleurs, je pense.
Plein au Japon, il y en a pas mal en France aujourd'hui.
Oui, il y en a en Suisse, il y en a en Hollande, il y en a en France, d'autres qui s'ouvrent là. Il y en a aux États-Unis.
Mais parce que ça marche bien en fait.
Non, c'est une idée abstraite de nouveau, voilà, mais je... Non, j'ai jamais été confronté à ça. Non, on le sait, mais on ne sait pas. Enfin, moi, je sais pas où c'est. Enfin, voilà, je le verrais, que j'hallucinerais quand même, quoi.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez répandu. On parlait du Japon. Ils ont eux une façon de vivre avec ces poupées qui sont plus des private dolls que des dolls, que des poupées sexuelles à proprement parler. Même si elles font le boulot au passage, hein, bien sûr, elles sont. Ils s'en servent aussi comme ça, mais pas, officiellement, c'est plus pour avoir une compagnie, parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir une femme, la dot est trop importante.
Oui, c'est pour des
il y a une espèce de frilosité aussi de beaucoup d'hommes par rapport à ça, qui ne veulent plus fonder de famille, qui ne veulent plus, plus avoir d'enfants, qui ne veulent plus s'embêter. Donc ils les traitent comme des personnes, ils leur achètent des bijoux. Maintenant elles parlent. Alors l'avantage c'est qu'elles...
Dans votre roman elles parlent aussi.
Elles parlent aussi.
Il y en a une qui parle en tout cas.
Absolument. Mmh. L'avantage c'est qu'elles ne vous disent que des choses agréables. Vous êtes très beau, vous êtes le meilleur amant. Tu sais, l'argent n'a aucune importance pour moi.
C'est parfait.
Et donc, tout va bien. Et en plus, elles peuvent, vous pouvez les choisir, la...
Tout, la texture de la peau, bien sûr, la couleur des yeux, etc.
Oui,
etc.
Oui. Vous pouvez même la faire refaire sur le modèle d'une femme que vous avez perdue, aimée, de votre mère. Comme dans Sex Doll.
Exactement. Sex Doll, nouveau roman, donc des aventures de la commissaire Edwige Marion. Daniel Thierry, juste un mot sur vous. Vous êtes une pionnière, une des premières femmes à devenir commissaire en 76, puis ensuite la première femme commissaire divisionnaire en 91. C'était facile de s'imposer à l'époque dans le milieu ?
Alors, c'est jamais facile. Jamais facile, mais c'est pas facile pour un homme non plus, je vous rassure. Ce métier est difficile, quel que soit notre sexe. Moi, je n'ai pas ressenti ce genre de difficulté. J'ai commencé par la base, par être officier de police.
Ah, vous avez fait tous les échelons.
Donc, je me suis frotté le cuir à des collègues qui on a un petit peu joué sur l'effet de surprise, c'est vrai, au début. Et puis c'était pas une époque où ça posait plus de problèmes que ça. On était juste après 68. On avait quand même un peu fait
le ménage,
on avait levé le poing. Et donc les choses allaient un tout petit peu mieux. Je ne dis pas que c'était facile, mais ça n'est pas facile. Vous savez, les relations humaines, surtout quand on est dans des travaux, dans des métiers comme ça, où on côtoie le pire tous les jours, hein, c'est quand même le fondement de tout ça. C'est jamais simple.
91, mais... donc première femme commissaire divisionnaire en France. Quelques années plus tard, vous commencez à écrire de la fiction. Qu'est-ce qui a fait basculer
C'est justement ça. C'est le passage de grade qui a été une circonstance qui m'a amené à faire de la télé avec mes deux collègues qui étaient nommés en même temps que moi, Martine Monteil et Mireille Balestrasi. Nous étions trois cette année-là. C'était vraiment révolutionnaire. Pas pour nous, mais pour les autres, ça l'était. Et nous avons été invités dans des émissions de télé, notamment chez Michel Drucker.
Oui.
Et moi, j'ai dit à Michel pourquoi vous n'écrivez pas tout ça, c'est formidable. Je dis, quand j'aurai le temps. Et il m'a dit, mais le temps, c'est pas un argument, ça, hein. C'est comme le sport. On dit toujours, je fais pas de sport parce que j'ai pas le temps. Ça n'a aucun rapport. Il faut écrire. Et c'est lui qui m'a mise en relation avec des gens.
Ah, c'est comme ça que ça a commencé,
oui,
alors.
Exactement.
Ah, d'accord. Depuis,
j'avais envie d'écrire. Je l'aurais fait. Mais je l'aurais peut-être pas fait à ce moment-là. Je l'aurais peut-être pas fait de cette façon. Puisque c'est par la télévision que ça a commencé avec Pierre Grimblat, quai numéro 1. Et qui racontait l'histoire de mon arrière-grand-mère, Marie Gard. Qui a existé, hein.
Ouais.
Marie Gard. Voilà. Et donc,
on a. Qui avait travaillé avec les trains. C'était vraiment.
C'était un petit peu. Parce que à l'époque, on me disait, mais pourquoi les trains? Alors, faute de pouvoir répondre quelque chose d'intelligent, du genre, c'est la carrière administrative, vous savez, j'ai pas forcément choisi ça. Je disais, c'est à cause de ma grand-mère. Voilà.
Marie Gard. Alors aujourd'hui, une enquête atroce, des crimes de femmes dans trois milieux différents, mais toutes liées à la commissaire Edwige Marion. Je lis un petit peu ce qui leur est arrivé. Elles étaient emballées dans des films en plastique fin, étroitement collés à leur corps, un bras prisonnier de l'emballage, l'autre libre. Elles avaient été mutilées, hantées et post-mortem, scalp enlevé, yeux exorbités. Et j'en passe. Chaque fois donc, la commissaire a été prévenue de ces crimes par des personnes de son entourage professionnelle, et la dernière par sa fille qui vient d'arriver de Londres où elle a eu une vie pas si lisse que ça. Sex Doll, ça se passe aussi dans un hôtel de passe pour poupées en silicone. Le livre s'ouvre sur un taré qui fait subir tous les outrages à une poupée qu'il massacre littéralement. Un scénario qui n'est pas sans rapport avec les crimes de femmes dont on parle dans la ville. Alors, qui est ce détraqué qui frappe le 4 de chaque mois? Pourquoi s'acharne-t-il sur ces femmes? Et pourquoi Alix de Claverie, son métier c'est...
psychocriminologue,
a complètement disparu de la circulation pendant l'enquête. À l'origine, c'est quelque chose que vous avez connu.
C'est-à-dire les psychocriminologues ou les...
Oh, ça, j'imagine que vous les avez connus. Mais à l'origine de cette enquête, il y a un fait marquant qui vous a intéressé, l'élément déclencheur.
Moi, le point de départ, l'élément déclencheur, c'est cette histoire d'hôtel 2.0 qui se crée à Paris, parce que quand je suis tombée là-dessus, j'ai trouvé que c'était un fait divers qui méritait qu'on s'y arrête. Ça faisait couler beaucoup d'encre déjà, le gars, ça lui a fait beaucoup de pubs sans doute, mais c'était surtout ça. Donc j'ai commencé à vouloir explorer un peu le côté nouvelle forme de prostitution, nouvelle expression de la sexualité aussi, parce que...
On a parlé des ponettes hein, tout à l'heure, donc ces jeunes filles tous les milieux aussi, qui sont, se prostituent pour des fringues ou pour améliorer leur condition de vie.
La banalisation de la prostitution, la banalisation du corps aussi, le fait qu'on n'en fait plus un terrain sacré qu'il faut protéger, préserver. Nous, on nous expliquait ça quand on était jeunes, il fallait... avoir du respect pour soi, pour son corps. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est un petit peu flou. Et puis, les nouvelles formes de vie aussi, dans certains cas. J'ai parlé du Japon tout à l'heure, mais il y en a d'autres aussi, puisque ces femmes en silicone, enfin, ces poupées en silicone, on les trouve dans les vitrines à Amsterdam, à côté des vraies femmes. Donc il y a quand même un monde qui passe par la désincarnation des rapports humains, je trouve, aujourd'hui, et qui n'est pas prêt de s'arranger. C'est d'après ce que je sais, ce que j'entends, c'est...
Comment vous vous documentez ?
Alors je vais beaucoup sur le terrain.
Ouais.
Je vais beaucoup dans les services de police, harceler mes collègues.
Et qui sont... Quand tu vous vois arriver, il y a une nouvelle enquête d'Edwige Marion. Ouais.
Encore elle, les jeunes gardiens à l'accueil me disent bonjour comme si je faisais toujours partie de
l'équipe,
la maison.
Ouais.
Voilà, des fois, je me retrouve enfermée le soir. Mais c'est anecdotique. Et donc oui, je passe beaucoup de temps avec eux. J'ai un bon petit réseau quoi, de collègues. C'est nécessaire, parce que moi, quand j'ai arrêté de travailler, ça fait maintenant 10 ans, bon, j'avais déjà tâté d'autres choses que les sujets dont on a parlé, mais les enquêtes à proprement parler, et surtout sur ces activités-là, pour moi, c'est quand même ça date un peu, quoi. Donc, il faut que je me tienne au jus, comme on dit.
Manifestement, vous tenez au jus, Daniel Thierry.
Ben
quelle
oui.
est la difficulté pour écrire des crimes sexuels, c'est-à-dire?
Pour les écrire ou les
pour,
décrire?
Pour les décrire, bah oui, les
Alors,
écrire, donc les décrire,
moi j'écris,
sans j'ai... verser non plus ouais. dans le voyeurisme, tout en gardant un caractère quelquefois insoutenable.
Oui, ce que je décris surtout, c'est le résultat. Parce que là, le docteur X, qui fait subir les derniers outrages à ces femmes, je décris des scènes de massacre, de violence. Je ne décris pas les scènes sexuelles. Ça, j'aurais beaucoup de mal, je pense, à le faire. Et je trouve qu'il y a un peu trop de complaisance à décrire un viol, justement, dans le détail, avec les cris de la fille, avec « arrêtez, vous me faites mal ». Bon, je l'ai lu, c'est pour ça que j'en parle,
ouais.
mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Même si, si ça sert vraiment l'histoire, pourquoi pas, si c'est indispensable...
Mais vous êtes toujours tenu à l'écart...
Mais je reste toujours en retrait de ces aspects-là. Alors, à plus forte raison, quand il s'agit d'enfants, parce que je les mets souvent... J'ai souvent des affaires qui ont trait aux enfants. Ça, c'est mon passage aux mineurs et tout au long d'ailleurs de ma carrière, parce que les 50% des affaires qui sont traitées aujourd'hui dans les commissariats sont des affaires de violence.
Il y a encore des histoires
violence
qui vous
hantent. Aux femmes, violence aux enfants. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, que je ne peux absolument pas oublier. C'est ce que les policiers appellent les clous dans le cœur, hein, qui sont soit des affaires qu'on n'a pas résolues, parce que malheureusement il y en a. Soit des affaires qu'on n'arrive pas à se sortir parce que, c'est éminemment puissant. Mais celles-là, je ne les raconte pas. Je les raconte pas, et surtout, je ne les décris pas.
Juste une question par rapport à cette mission que vous êtes donnée. Ça a commencé très jeune parce que vous venez d'une famille déjà de policiers.
Enfin, mon père.
Votre père ?
C'est une petite famille, là. C'est
ouais.
juste le père.
C'est juste le père ?
Puis le père, il était plutôt... Lui, c'est un sportif, il voulait faire du sport. Il était blessé à la fin de la guerre, gravement, il a failli mourir. Et après, on lui a proposé un poste dans la fonction publique pour bons et loyaux services rendus à la nation. Et on lui a proposé ça, il a dit qu'il voulait pas être fonctionnaire. On lui a dit, la police, encore moins... Mais qu'est-ce que vous voulez faire finalement? Il voulait être boxeur. Bon, alors, on lui dit, tu pourras faire du sport dans la police. Bon, allez, banco. Il est allé faire ça. Mais mon père n'a jamais fait de police. C'est pas du tout un
Donc
policier.
La vocation est née à quel endroit?
La vocation est née. La vocation de la police, elle n'est pas née. Un jour, là, je me suis pas dit tiens, je veux être flic. Non. Non, ce que j'aimais, c'était l'enquête, le mystère, le suspense, les polars. Alors ça, oui, toute petite, je suis tombée dans la marmite, c'est sûr. Mais ça s'est jamais démenti par la suite. Mais le choix du métier, il est arrivé après 68 parce que ben, c'est à ce moment-là que la porte s'est entrouverte, tout doucement.
Pour les femmes.
Pour les femmes. Et avant, je ne pouvais pas faire le choix, je ne pouvais pas avoir l'idée de ce métier qui n'existait pas pour les femmes. Il n'en était absolument pas question. Mon père, d'ailleurs, ça le hérissait de l'idée qu'un jour, il pourrait faire équipe avec une pisseuse, comme il disait. C'était juste pas possible.
Vous nous avez donné un son qui vous a marqué. Mm-hmm. J'aimerais qu'on l'écoute et que vous le commentiez, Daniel Thierry. Un exercice que vous connaissez bien, Sylvie Testu. On en a parlé au début, puisque vous êtes une championne, les innocentes aux mains pleines. Ce son, qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Eh ben, ça représente, c'est le tir. Mon père était moniteur de tir, au passage aussi, en même temps qu'il était. Et donc, il m'emmenait, quand j'étais toute petite, il m'emmenait quand il y avait des stages, comme il disait. Il y a un stage, je dis emmène-moi, j'ai envie de voir ça. Et j'ai pas de fascination pour les armes, hein, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est. C'est plutôt malsain. Mais le tir, je ne sais pas, il y a une ambiance dans un stand de tir. Il y a énormément de rigueur aussi, il faut être très très précis. Et puis ce que j'aimais surtout, c'était les exercices en situation. C'est-à-dire quand on faisait des stages ou quand on nous amenait tirer, ce n'était pas forcément tirer sur une cible immobile. Au contraire, c'était... On nous met en situation, on est surpris, on nous amène dans un endroit, puis subitement il y a des gyrophares partout, des lumières, des coups de feu, vous devez réagir. Et c'est ça que j'aimais.
On le voit même quand vous le racontez, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, écrire des romans, pour vous, c'est rester en contact avec ce métier ?
Oui.
En fait, avoir tourné la page, quoi.
Non, mais j'ai pas envie de la tourner. Pour moi, c'est très important. Ça a été quelque chose de très important dans ma vie. J'ai été passionnée par ça. Alors pas forcément par le tir, parce que heureusement, dans la vraie vie, on tire très très peu. Ça m'est pas arrivé souvent, ni de me faire tirer dessus d'ailleurs. Ça arrive forcément de temps à autre, mais c'est quand même exceptionnel, heureusement. Mais c'est bon, ça c'était plus pour l'anecdote et l'ambiance, parce que c'est vrai que ça me faisait des trucs, comme la musique tout à l'heure dont Sylvie parlait, des basses quand elle était dans les concerts. Moi c'était les coups de feu au centre de tir. Mais j'ai aimé ce métier, oui, passionnément. Pour le contact humain, pour tout ce que ça apporte, de surprises, d'inconfort aussi. Je détestais le confort. Je déteste toujours ça dans la vie. J'aime bien qu'on me surprenne, pas trop. Mais j'aime bien que les choses ne soient pas linéaires, qu'il arrive des trucs et que...
Ah ben c'est exactement ce qui se passe dans le roman. L'excitation est au rendez-vous dans Sex Doll chez Flammarion. Oui. Merci Daniel Thierry. Merci Sylvie Testu. Le NRV, première partie, c'est fini. Mais pour nous, non. Hein. On se retrouve dans 15 minutes après le journal et on se retrouve avec ça, c'est une autre ambiance.
Avec 6 millions de visiteurs chaque année, la ville génère le même chiffre d'affaires que l'ensemble des stations de sport d'hiver des Pyrénées.
C'est Lourdes. D'ailleurs, vous avez joué un film. Mais oui, vous étiez une miraculée dans Lourdes.
Exactement.
Bien, on va en parler tout de suite. C'est du lourd à l'occasion de la sortie d'un documentaire formidable. On y revient. À tout de suite.